Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour chers auditeurs. Il existe dans la zone commerciale de Portet-sur-Garonne une oasis remplie de soleil. Soleil turc, tunisien, toulousain, portugais. L'ouvrier et le patron boivent leur premier petit noir à 6h30. Les derniers y clôturent leur journée de travail ou de chômage par l'apéro à 19h. Très pauvres et très riches y sont accueillis exactement de la même manière, ce qui est plutôt rare en ce bas monde, avec le grand sourire engageant de Julie et Denis. Bienvenue au Disque Bleu, route d'Espagne. Nous sommes de retour donc au bar, restaurant, tabac de Portet-sur-Garonne, donc sur la Nationale 20.
Le Disque Bleu.
Le Disque Bleu.
Pour la publicité quand même.
Quand même, exactement. L'îlot de fraîcheur, de rencontre et de mixité totale dans cet océan de commercial, hein, qui n'est pas forcément très avenant, mais là... Franchement, arrêtez-vous.
Salut monsieur.
Bonjour,
bonjour, ça va ? Ça va, et toi, merci. Oui. Oui, c'est un peu une technique chez nous, pas commerciale, mais humaniste. On salue et on tutoie plutôt les gens en général. Et puis coller le salut monsieur à un salut madame. Souvent les gens me disent, voilà c'est bizarre, mais c'est fait exprès. On tutoie, on rapproche les gens et le salut, je sais pas, c'est salutation, je trouve que c'est sympa. Et ça évite le bonjour. On a aussi l'habitude de...
Même quand ils ont une gueule un peu patibulaire quand ils rentrent.
Oui, surtout quand ils ont une gueule patibulaire. Les gens qui parlent mal français ou qui viennent d'autres pays en général se font apparemment hein, parce que je sais pas se font assez mal accueillir ou voilà donc ils ont souvent honte d'être d'avoir des bottes crottées, des choses comme ça, et ça a une manière de les mettre en confiance, de les faire atterrir en fait dans un endroit qui est un endroit, un lieu public et un endroit où on vient boire un café, se détendre, donc voilà, on essaye de après ils peuvent avoir aussi des problèmes, des galères, des trucs, plein de trucs comme ça. Notre métier, voilà, c'est aussi de leur donner un petit rayon, et surtout c'est notre côté chez nous. Il y a un peu, on est très mixte, il y a des personnes d'origine indonésienne, il y a un portugais, il y a un français, il y a un italien, voilà, c'est un peu le hasard des recrutements, mais on laisse faire, nous on engage au visage et au sourire, c'est tout.
Et j'ai en face de moi Méga, qui est arrivé il y a 4 mois, qui travaille ici pour le Disque Bleu, qui arrive d'Indonésie et qui va nous raconter peut-être sa surprise de côtoyer la râlerie peut-être ou l'agressivité des Français, alors qu'en Indonésie on est tellement... tellement poli, tellement
oui,
doux et on ne se met jamais
en
colère.
Culture, c'est différent entre ici et en Indonésie, mais je toujours prends le culture là-bas, faire être sourire, faire dire bonjour, merci, voilà un truc comme ça. Mais j'étais un peu choquée la première fois que je viens ici en France, mais ça, parce que jamais dans ma vie que je trouvais le culture comme ça dans ma vie.
Mais
c'est-à-dire que c'est qui crie ou peut-être je pense que la première fois quand les gens qui discutent ils sont discutés en France, le France ou français. Je pense qu'elles sont disputées, quoi. Apparemment, c'est normal pour eux. Mais pour moi, ça me choquait.
Et pourquoi vous êtes venue travailler ici alors ?
Oui, j'étais travaillée aussi dans un restaurant traditionnel, mais là c'est un peu différent parce qu'il y a le tabac bar et tout ça, il y a plein de gens, le client qui vient dans plusieurs pays, turc, Maroc ou portugais, voilà, ça m'a intéressant aussi. Voilà, j'aime bien aussi rencontrer les autres, parler avec le client. Voilà, ça m'intéresse.
Je me suis toujours demandé en Indonésie si on se forçait à être absolument aimable et non agressif, ou si c'était absolument... ça coulait dans votre sang.
Oui, il y a l'agression, mais peut-être c'est pas pareil comme ici. Mais l'agression là-bas, si on fait trop haut l'émotion, oui, on fait le cri aussi là-bas, mais ici c'est différent. Voilà.
Il y a le service qui vous appelle, c'est ça?
Il y a le service qui vous appelle?
Oui, désolée, je dois partir.
Oui, c'est l'heure de son déjeuner, 11h30, pétante. Merci, Mégane, de ta participation. Oui, j'adore c'est, effectivement, les rayonnantes. Je ne sais pas si vous voulez vous en parler, Sandrine, parce que j'ai dû m'absenter. En Indonésie, crier, c'est s'abaisser, c'est un signe de faiblesse et surtout pas de gentillesse. Et qu'elle affronte pas que nos Français, parce qu'ils sont, c'est pas malheureusement les seuls à râler. Le Français, d'ailleurs, n'est pas forcément râleur. Mais elle affronte effectivement une certaine violence verbale et d'approche physique avec un sourire désarçonnant. Et je pense que c'est dans nos métiers la meilleure des défenses. Voilà, personne n'ose lever le ton contre Méga. Vous la voyez des fois se renfrogner un peu parce que justement on choque son éducation qui pourrait franchement donner beaucoup de leçons aux Occidentaux.
Et donc qu'est-ce qui souvent ça dégénère ici ou pas du tout? Alors c'est quoi cette violence ordinaire, je dirais, à laquelle on s'est tellement habitué qu'il faut vraiment être en Indonésie face à la gentillesse pour comprendre à quel point on est agressif?
C'est effectivement une violence ordinaire, plus verbale et avec une attitude physique de voilà, vouloir te monter dessus. Alors franchement, des bagarres, il n'y en a jamais eu ici. On a dû appeler une fois la police en 10 ans et encore c'était pour un directeur commercial, un bon blanc comme je peux dire. Qui traitait son salarié de nègre et j'ai pas supporté, donc j'ai fini par appeler la police. Donc c'est le seul pour qui nous avons daigné appeler la gendarmerie nationale, voilà.
Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui est en permanence jaugé, jugé par son faciès, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, son teint basané, son accent, forcément quand il arrive quelque part ici, il peut être sur la défensive au départ.
Oui, c'est vrai. Et alors, sans vouloir décrier mes confrères buralistes, mais pour avoir été à une réunion de buralistes, là, il y a pas mal de gens, ils sont vraiment très rudes, ont une sale habitude de cracher sur leur clientèle, alors que c'est quand même notre pain quotidien et puis notre travail. Et je leur dis souvent, mais changer de métier. Moi, je trouve ça, j'étais un peu surpris. Je suis pas buraliste de métier. Je suis plutôt restaurateur et cafetier. Et c'est un côté agréable. Voilà, c'est un côté effectivement récurrent, très village, tous les jours, mais c'est vivant. Et alors, nous, on est café et tabac, donc c'est vrai que c'est un peu plus sympa que le bureau de tabac pur et simple, mais moi je me suis étonné à y prendre un certain plaisir, voilà, à m'occuper de mes clients.
Bah oui, clairement, ça se voit. Vous êtes un peu dans l'ouverture tous azimuts, en fait, des patrons, d'une bonne énergie, d'un accueil inconditionnel. Est-ce que tout ça, ça fait gagner en retour des choses bien meilleures que des visages fermés, méfiants, qui jugent et qui rejettent d'abord d'emblée? Est-ce que c'est une des solutions?
Je pense que c'est une des solutions. On peut pas. Il y a des. Comme la laïcité, c'est un principe, mais je pense pas qu'on puisse la passer à la schlag. Ça s'explique, ça s'accompagne, en fonction des histoires de chacun. C'est complexe, mais avec le temps, on y arrive. Alors, il y a des provocateurs un peu comme chez tout le monde, à la marge, mais j'essaye de pas trop m'en occuper. Voilà, franchement, 98% de mes clients sont simplement adorables et d'une honnêteté et scrupuleuse.
Et vous croyez pas justement que ce serait dans cet endroit-là qu'il faudrait aller piocher quelques vérités de terrain, qu'on soit journaliste, qu'on soit politique, qu'on soit décideur tout court, parce que on est ancré à la réalité du fond commun de la société française et si on la connaît pas, celle-ci, on est toujours quand même un petit peu à côté de la plaque.
Oui, après, je ne pense pas que nous soyons non plus une exception, mais c'est vrai que c'est une bonne manière de prendre le pouls de la société ici, de voir à partir de quel moment les a priori s'arrêtent et à quel moment les gens commencent à communiquer entre eux, quelle que soit, encore une fois, leur origine sociale, culturelle, ethnique. Il y a vraiment un moment où les gens, vous les voyez douter et puis sourire et puis rentrer dans l'humour, rentrer, voilà, et c'est impressionnant. Voilà. Après, je pense aussi qu'on a pas mal de jeunes dans le quartier et franchement, dès que ça ne va pas, si vous vous voyez derrière, il y a des parents compliqués, des histoires compliquées. C'est jamais, voilà, ils sont jamais tous méchants. Moi, j'en ai accueilli ici, ça fait 10 ans qu'on est là, donc ils sont maintenant des jeunes qui ont 22, 23 ans. Alors oui, certes, on a pu avoir des problèmes quand ils avaient 14, mais maintenant, les trois quarts sont partis dans la vie, travaillent, sont intégrés, repassent ici, fiers comme Artaban. Et moi, j'adore ça. C'est mon métier. Je dis souvent que si j'avais voulu être riche, je me serais acheté un McDonald's et pas un café ou un restaurant de quartier.
Parce que c'est vrai que c'est presque un peu la théorie du coup de pouce ou de la porte ouverte, ce dont vous parlez là.
C'est ça, et de l'exemple donné, moi je les invite à aller voyager, à sortir de leur quartier de base, d'aller se confronter un peu ailleurs. On est bureau de recrutement, on fait des dossiers de surendettement, on fait des plein de choses qui ne sont pas forcément de notre métier. Et je pense que c'est aussi ça, ce qu'on appelle le commerce de proximité. Je l'ai pris en pleine gueule quand je suis arrivé ici, parce que moi c'était pas ma tasse de thé à la base, mais j'aime bien ma fonction aujourd'hui.
Un client qui veut vous dire quelque chose qu'on va enregistrer.
C'est un fournisseur de la FDJ.
C'est le directeur Nouvio, la française des Nouvio qui était tombé.
D'accord, ah, simplement. Ok, oui. Je suis désolé. Donc, tu t'es déplacé pour rien en fait. Est-ce que tu veux boire un café?
Je prends un café.
Ça marche.
Merci.
Ça marche, je te fais la copie. Dédé, on te cache pas, je t'ai vu. Tu peux faire un café à monsieur, s'il te plaît. Donc voilà, donc c'est notre vie au quotidien.
Alors pourtant, vous ne pouvez pas passer non plus un temps fou avec chacun. Ça dépote quand même en termes de rythme, ça n'arrête pas.
Oui, on est un peu chef d'orchestre. Il y a des moments où on peut s'occuper des gens et on prend le temps. Et il y a des moments où c'est pas possible. Voilà, là, pour l'instant, c'est 11h30. Une partie des gens qui bossent avec nous sont en train de déjeuner. Et dans une demi-heure, ça va être le coup de feu. Donc là, mais ça peut s'accélérer, ça peut se ralentir. Mais c'est vrai que notre métier, c'est aussi savoir gérer l'impatience, pas d'impatience, mais de pas. On essaye de voir avant que la personne s'impatiente. Donc après, vous avez un accompagnement musical qui est très très important chez nous. Encore une fois, multiculturel, quasiment permanent. Mais voilà, et puis après, prendre en compte son client, même quand, à partir du moment où il ouvre la porte, c'est très important. Il voit bien quand il y a 10 personnes devant lui qu'il va devoir patienter, mais vous lui avez fait un signe, un coup d'œil, un coup de main, j'arrive monsieur, je suis à toi tout de suite, et ben ça, voilà, il patiente. C'est la vie, mais voilà, on ne gère pas l'impatience chez nous, c'est pas très bon, c'est pas bien.
Mais on est d'accord que ça peut suffire. Une reconnaissance, quel que soit le signe,
absolument.
Ça peut suffire pour qu'à un moment donné, on se sente dans un endroit pacifique où on est accueilli et le reste fera son
comme
cours.
Comme souvent, on n'est pas pris en compte. Moi, quand on a acheté ici, on a visité notre précédent propriétaire qui était pourtant vraiment un professionnel. Il n'avait pas cette patience, on n'avait plus cette patience et il y avait quelques tensions qui a plu chez nous.
Alors Sam est revenu parmi nous, l'entrepreneur réussi, franco-turc. Est-ce que la confiance, c'est la base, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée?
Oui, la confiance, c'est très très important aujourd'hui. Si on ne travaille pas avec la confiance, je trouve que c'est malsain. Il faut avoir une confiance. Bon, en tant que gérant, avoir confiance en ses salariés, bon, une confiance aveugle. On ne donne jamais une confiance aveugle, mais il faut quand même avoir confiance en ses salariés, avoir confiance aux gens qu'on croise, avec les rencontres qu'on fait. Oui, la confiance est importante. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est, je me permets de le dire, qui est un peu fracturée, et que ce soit culturel ou religieux. On doit se faire confiance l'un les autres. La France est un pays de droit et est un pays... pour moi, exceptionnel. Et il ne faut pas que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche qui divise toute cette culture, cette mixité. Est très très important pour moi. Étant d'origine turque, je ne suis pas marié avec une turque. Je suis marié avec une femme qui est d'origine algérienne. Et voilà, la mixité, aujourd'hui, je pense que c'est la clé de la réussite de la France.
Et on perdrait tellement gros si on passait à côté. C'est ici qu'on ne passe pas à côté de cette richesse-là. Et je vais terminer cette émission de nouveau par un extrait de notre tonton à tous, Pascal Alberola, qui donc est chanteur, auteur, compositeur et pilier de bar à l'occasion, ici, au Disque Bleu, et qui nous fait part d'une de ses compositions.
Dans ce bistrot où l'humour et la foi font un curieux mélange, dans ce bistrot où on y gratte sa chance, on permet, oui, qu'importe, y aura la revanche. Dans ce bistrot où la verve est féconde, où les conseils abondent, y a tant d'experts et il y a tant d'affaires qui se traitent en verre, pauvres ou bien millionnaires.